Ben, disons que quand donc le chantier a fermé, bon, c'était il y avait encore, comme je dis, des ateliers et tout ça. Le grand atelier, il est toujours là, mais il y avait des ateliers partout, quoi. Et puis il y avait la Grugeaude aussi, d'ailleurs, entre parenthèses. Et il y avait d'autres grues, il y avait beaucoup d'autres grues, tout ça. Mais pendant ce temps-là, nous, on était là et nous, on était les veilleurs de l'endroit. On avait notre mot à dire, enfin, on avait notre mot à dire. On disait notre mot, d'ailleurs, que ça pèse ou pas. D'abord de faire en sorte que ce site-là reste, enfin, classé, protégé. Site protégé, donc, histoire de la construction navale à Nantes et tout ça. Et puis, on a créé en 93-94 l'association Maison des Hommes et Techniques, parce que on voulait créer dans cet espace-là la Maison de la Navale. C'est qu'avant la fermeture, il y avait toute une structure, il y avait toute une idée et tout ça de valoriser tout ce qui existait avant nous. C'était aussi important, sinon plus, que ce qui allait venir faire des bidules et des machins, quoi. On ne mettait pas un coup de cutter, dire bon, ben ça y est, c'est fini, on s'en va ailleurs, quoi. Alors, dans un premier temps, il y a eu, comment qu'il s'appelait, le financier machin, là, qui voulait installer ici, en bord de Loire, la Cité internationale des affaires. Un grand truc, là, pour gagner du pognon et tout ça. Et donc, quand on a vu ça, on a dit oui, c'est peut-être bien, mais enfin, on va tout foutre à l'eau. Parce que nous, c'est pas comme ça qu'on voyait le site, et puis c'est pas comme ça qu'on veut travailler. Et ce qui est dessus doit être conservé et doit être valorisé, quoi. Alors bon, il y a eu. Alors on a fait des réunions à côté de la gare là-bas. Et donc voilà, on s'est bagarré, on s'est motivé pour justement faire en sorte que le site ne soit pas pris d'assaut par des gens qui voulaient faire tout et n'importe quoi. Alors, en 80. 13, 14, oui, un truc comme ça. Il y a des gens qui sont venus, en particulier deux gens qui étaient prestigieux, qui venaient de Toulouse, François de la Rosière et puis son copain. Et donc ils sont venus et dit, voilà, ce site-là, c'est bien. Ils sont venus nous voir justement dans ce bâtiment-là. Alors moi, je leur ai posé la question, pour vous, ce site-là, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente et tout, quoi? Et puis, ils m'ont dit, oh, c'est bien, parce que c'est vide, il n'y a rien. Ah oui, il n'y a rien. Allez, dehors, paf, pas un coup de pied qui vit presque. Sur les cales, pour lancer les bateaux, bon, il fallait des grosses pièces de bois, quoi. Tout ça, c'était barré. Et en définitive, on s'est renseigné, et c'était parti en Vendée. Les paysans de Vendée, ils mettaient ça, ils avaient pris ces grosses pièces de bois. Pour faire un passage, ils ont tous des petits entourés de petits canaux, de petits machins comme ça. Et c'était ça là-dessus. Et donc, on a été avec un camion qu'on a pris avec Jean. On a été là-bas, on a chargé tout ça et on les a remis sur la cale 3. Et puis, en même temps, il y avait une pièce de théâtre qui s'est montée là, qui a été donnée. C'est Othello. De l'équipe de l'équipe théâtrale La Chamaille, et qui a été montée et qui a été mise dans cette AP3-là. Et le site n'était pas démoli à l'époque. Voilà. Le chantier était fermé, mais le site n'était pas encore démoli. Et donc, ils avaient vu, ils voulaient une salle de spectacle un petit peu spéciale. Et puis, ça leur a beaucoup plus en définitive, surtout que la pièce de théâtre Othello se passait aussi au bord de l'eau, quoi. Donc, ils avaient créé des espaces qui ressemblaient un petit peu à ça, quoi. Et lorsque la première réunion, enfin, première, oui, édition qu'il y a eu, on avait fait en sorte, puisqu'il y avait un toit ouvrant pour mettre la grue, on a fait en sorte qu'à la fin du spectacle, le toit il s'ouvre. Et comme c'était la nuit, en définitive, on voyait la lune et tout ça, quoi. Donc c'est fabuleux ça aussi. Et aussi l'équipe de théâtre, là, j'étais vachement content avec nous et tout ça, quoi. Ce site-là avait une âme quelque part, qu'on essayait de conserver et même de valoriser. Et les artistes et tout ça sont friands, définitive, d'avoir un lieu où il y a déjà une âme et d'essayer de venir enrichir cette âme-là.
Alors moi, je suis arrivée à Nantes dans les années 90. On s'est installé dans ce truc qui s'appelle la rue Louis-Blanc, juste devant le pont Ondoudine.
Avec ma compagne de l'époque, on a pris un appart sur l'île et c'était rue Alain Barbetorte.
Alors déjà, effectivement, moi, ce qui me plaisait beaucoup là où j'habitais, c'est que j'avais vue sur la Loire. Elle prend l'empreinte vraiment de toutes les météos. Enfin, elle est très variable d'heure en heure, de jour en jour.
Effectivement, il y avait une ambiance encore de très populaire, mais un peu avec la désindustrialisation, c'était déjà il y avait une espèce de torpeur partout avec un côté alors un peu de la pègre. Il y avait pas mal de bars entraîneuses dans le coin, des trucs un peu glauques comme ça. Et puis beaucoup de bâtiments fermés, d'usines en désaffectées ou en désaffection.
Pour moi, c'était un paysage très séduisant et vraiment paysage. Donc, effectivement, c'était un peu assez excentré du centre-ville. C'était un lieu, je sais pas comment dire, qui avait son propre écosystème qui me plaisait beaucoup, qui laissait beaucoup de place. Qui avait pas de densité comme aujourd'hui, donc ça laissait beaucoup de place à chacun. C'était pas du tout. Du coup, pour la balade, c'était très très plaisant. Tu vois, tu prenais le vélo et puis moi je faisais le tour de l'île, je pouvais ne croiser personne du tout, quoi. Et je me souviens avec la poussette, tu vois, j'arpentais ce quartier, il s'y passait rien du tout, quoi. C'était très urbain, il n'y avait pas grand-chose, pas de parc, rien pour les enfants. C'était juste très tranquille. Après, c'était plus difficile d'être piétonne. C'était des kilomètres de boulevard où il ne se passait rien. Donc je me baladais peut-être plus en vélo, en fait, dans cette île en tout cas. Parce qu'il y avait aussi des rues qui étaient où il n'y avait plus d'histoire, c'est-à-dire qu'elles étaient désertes, il s'y passait rien, on n'y rencontrait personne, c'était silencieux, c'était abandonné, quoi. Après, tu sais, cette place que moi j'appelle encore la place François II, et qui était une place où il y avait encore les rails. On voyait encore les marques. Enfin, les traces de chemin de fer. Et c'est resté assez longtemps, d'ailleurs.
Donc avec des trains de marchandises qui passaient encore à l'époque, je ne sais pas s'il en passe encore. Mais de temps en temps, il y avait ces trains qui passaient. C'était assez troublant. En fait, ils pouvaient passer la nuit. C'était très très long. C'était des immenses trains. Ils roulaient très lentement. Et il y avait des. Et la nuit, ça faisait des bruits, mais des cieux et des. Avec l'espèce de rythmique des wagons très très lourds. Nous, on était juste à côté. Et en fait, on était en plus à l'endroit où ça tourne, donc peut-être qu'il ralentissait à ce moment-là parce que ça tournait. C'était vraiment au niveau du Lidl qui existe encore. Lui, il a pas bougé, c'est curieux.
Il y avait la Biocoop, elle y était déjà. Elle s'appelait pas la Biocoop d'ailleurs, elle s'appelait Horizon Vert. Et donc, mais il n'y avait jamais personne dans cette boutique. Mais elle était déjà là, en face de l'école. La rue. C'est là.
Boîte de nuit, le temps d'aimer aussi. Je sais pas trop ce qui se passait là-bas, mais je sais que des fois il y avait des rixes et tout. C'était la boîte de tous les possibles et de voilà. C'était. Moi, je sortais pas en boîte, mais on le savait. De toute façon, tout le boulevard Victor Hugo, tout était un peu poussiéreux. C'était des garages. Et puis tu vois, tu sentais une certaine pauvreté, quoi, clairement, partout. D'où le côté un peu pègre. Donc il y avait aussi des sortes de boîtes de nuit, bar entraîneuse, un peu des deux. Et donc aussi, ouais, la nuit, il y avait une activité un peu comme ça, malsaine, un peu.
Et j'ai adoré la maternelle. J'ai adoré parce que c'était très mélangé. Alors, pour le coup, c'était très mélangé. Enfin, moi, j'aimais beaucoup cette. J'ai beaucoup regretté cette école, en fait, après. Parce que c'était vraiment une école multiculturelle. J'ai trouvé que pour mon. Enfin, du coup, pour mon gosse qui a commencé sa vie là, c'était assez super. Et d'ailleurs, je me souviens très bien, en grande section, ou même peut-être en moyenne section, quand ils avaient accès aux apprentissages de lettres, tu sais, les débuts d'écriture, eh bien, il y avait toutes les écritures qui étaient sur les murs. Il n'y avait pas que A, B, C, D, comme nous, on a connu. Il y avait toutes les écritures. Et après ça, je ne l'ai pas connu du tout quand j'ai mis mes gamins dans ma petite banlieue, là, à côté. C'est quelque chose que je n'ai pas revécu. Ils n'ont pas pensé à mettre toutes les écritures. Et puis même, pendant très longtemps, tu vois, le pont des trois continents, il donne sur un quai qui était laissé au vent, qui est resté longtemps, longtemps une friche. Pendant même très, très, très longtemps, ils avaient laissé. Tout le sol était jonché de métal, de barres, de.
Parce que l'État, c'était l'État gigantesque. C'était monstrueux. Ça, je sais pas, ça pesait mais 8 mètres de haut, 9 mètres de haut, 10 mètres de haut parfois. Parce que ça changeait, parce que les grues prenaient le fer, la ferraille, les mettaient dans les bateaux, je sais pas dans quel sens ça allait. Mais dans notre immeuble, même, il y avait une espèce d'odeur indéfinissable. Je me suis toujours demandé pourquoi, enfin, d'où venait cette odeur. Si tu veux, même notre immeuble, il était à l'image, en fait, de ce côté très ancien. Parce qu'a priori, cet immeuble, c'était un immeuble pas très haut, genre 3 étages plus des combles, avec un café qui donnait en dessous, en bas. Et puis un truc très étroit, très sombre. Et l'immeuble bougeait en fait parce que beaucoup de camions passaient, puisqu'il y avait encore, si tu veux, c'était la fin d'une sorte d'activité industrielle, d'où les trains de marchandises qui passaient encore, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et quand les camions passaient, l'immeuble bougeait, pour te dire. Et l'immeuble, je pense, alors dans mon souvenir, je ne sais pas si j'ai inventé ça ou si c'est réel, ou si on me l'a dit, si les gens du café me le disaient, parce qu'on les croisait, donc ils faisaient pas, le café était au rez-de-chaussée de l'immeuble. Je crois que cet immeuble était un ancien hôtel. Moi, j'imaginais vraiment l'hôtel des voyageurs, quoi, un truc comme ça, l'hôtel des représentants de commerce, de que sais-je. Voilà, donc il y avait cet immeuble avec le vieux papier peint que j'imaginais construit sur du sable. En face, c'est pareil, on avait un bâtiment ultra glauque, genre un peu du pays de l'Est, le truc tout gris. Et là, pendant un moment, après, il y a eu Planète Jazz, donc une asso de gens qui faisaient de la musique, c'était assez sympa.
Alors, une chose qui m'avait frappée quand je suis arrivée là, c'est qu'il y avait, je ne sais pas combien de cafés, bars, peut-être une dizaine pour une boulangerie et une toute petite épicerie et une charcuterie. C'était impressionnant, tous les bars qu'il y avait. Et tous les hommes sous, d'ailleurs. Enfin, il y avait. Et il y a un autre souvenir qui est très important pour moi, parce que derrière, justement, alors donc sur cette place François Ier, il y avait une toute petite épicerie où c'était un couple. Ils faisaient les sandwichs le midi pour les ouvriers et ça pouvait durer des plombes. Et ils n'avaient rien. En fait, ils faisaient les sandwichs et ils vendaient des bouteilles de vin. Et il y avait quelques légumes, mais c'était surtout, en fait, finalement, leur spécialité, c'était les sandwichs cornichons saucissons ou Non, pâté. Enfin, voilà. Camembert aussi. Et des très gros sandwichs, des vrais sandwichs. Comment on appelle ça? Casse-croûte. Un gros casse-croûte. Alors ça, c'est... J'ai gardé ce souvenir-là. Il y avait la boulangère aussi, qui était un espèce de personnage assez étonnant. Je pense que j'ai pas eu un sourire de cette femme de tout le temps où j'ai acheté du pain chez elle. Et pareil, d'ailleurs, le charcutier et la charcutière. Pareil, c'était comme s'ils étaient sortis d'une fiction. C'était comme si c'était pas tout à fait réel, en fait. C'était comme s'ils appartenaient un peu à un autre temps, tous ces gens-là. La buraliste aussi, qui était une femme grognon. Tous ces, en fait, ils étaient vraiment rattachés à un espace, et je les voyais pas ailleurs.
On entendait hein, parfois des trucs, genre des courses-poursuites, des trucs comme ça. Bon, pas des coups de feu, mais presque. Mais j'ai un ami qui a assisté à ça, c'était pas très loin. Mais et lui avait vu de courses-poursuites avec les mecs qui sortent la tête de la voiture et qui se tirent dessus au flingue, quoi. Mais là-bas, c'était ça, parce que des fois, je retrouvais des taches de sang par terre, tu vois, des trucs comme ça. T'avais des trucs chelous. Et je sais que ma compagne de l'époque, elle, quelques années avant, avait assisté à des règlements de compte là-bas, avec carrément donc les gens intimidation, les trucs vraiment genre garde et gants quoi. Avec donc m'avait-elle raconté les mecs qui avaient quand même le couteau dans la chaussure, la chaussure couteau quoi. Donc, tu vois. Donc il y avait ce côté-là quoi, les Mercedes, les moustachus, les gitans, les.
Des fois, j'ai pris des notes de ça. J'ai pris des notes de certains de ces portraits, un peu atypiques, un peu particuliers. Mais je les ai pas, j'ai pas tellement exploité ça. Enfin, moi, je me sentais pas différente. C'est plutôt ce lieu qui était imprégné d'un jus particulier. Tu vois, d'une odeur, d'une ambiance, d'un aura particulier. Mais moi, non, je ne me sentais pas très différente. En tout cas, ils appartenaient à une histoire et ils avaient vu l'histoire se transformer. Eux, ils l'avaient vu. Alors que moi, j'arrivais, c'était no mas land, j'aime pas ce mot-là, mais c'était ouais, une jachère. Il ne s'est rien passé pendant très longtemps. Ils l'ont laissé comme ça, en jachère, en état, pendant plusieurs années. J'étais reconnaissante qu'ils laissent le temps à cette île de s'inventer. Franchement, je savais que ça ne durerait pas. Et donc, j'étais vraiment contente de pouvoir profiter de ce moment-là, qu'on pourrait appeler un temps d'un entre-deux, un temps de... de friche, mais surtout de... Comment on appelle ça? Tu sais, quand tu laisses un pré et tu ne le cultives pas tout de suite. Attends, je ne sais plus, j'ai un truc, tu vois. Les allumer, en fait, tu sais, c'est cet événement qui était mis en place dans les années 90, de minuit, toute la nuit, de 18h à 6h du matin plutôt, et toute la nuit, la ville était animée, et je me souviens, la gare d'État avait été occupée par des artistes russes. Au fur et à mesure qu'il y avait des événements dans des lieux, qu'ils étaient ouverts au public dans des états, évidemment, plutôt en friche, on savait qu'après, ça allait être détruit. On le savait. Et tu vois, maintenant, c'est en parlant que je pense qu'effectivement, on était dans des rituels. Des rituels. Adieu. Moi, je me souviens quand je suis arrivée ici, dans cette maison dans laquelle on est, on n'a pas repeint les murs tout de suite, on a attendu un peu. On a fait les travaux au bout d'un an et demi, 2 ans, pour laisser le temps de s'imprégner de l'histoire de cette maison, de sa de son ergonomie, de son écosystème, de la manière dont elle, de la lumière, comment elle est traversée. Ben, c'est pareil avec cette île. Moi, j'ai eu la chance d'y habiter pendant qu'elle était en train de se réinventer. Et puis, de se nettoyer de ces toxines. Parce que quand même, c'est hyper polluant, quand même, les activités qu'il y avait. Après, on a fait des cases. Mais pendant très longtemps, il n'y a pas eu. Et ça, c'était très agréable.
Quand j'étais ado, moi je me rappelle d'une ville où on se faisait assez chier. On pratiquait beaucoup les marches de Gralin à l'époque. C'était l'endroit où on allait se faire chier. On allait s'asseoir sur les marches de Gralin, on regardait toutes les voitures. Et puis c'est là où on discutait, on buvait des bières. C'était un peu le spot de ceux qui se faisaient chier. Et avec des amis du lycée, on a décidé de faire un groupe de rock. J'ai installé la batterie dans ma chambre, les parents n'étaient pas là, et puis on a commencé à jouer. Et là, il y a un mec, on habitait au premier étage, mais un premier étage qui se situait à peu près la fenêtre à 2 mètres de la rue. Et il y a un mec qui grimpait, qui appelait à l'aide, parce que le bruit était insupportable, il n'en pouvait plus. Et donc la première expérience qu'on a faite, elle montrait clairement qu'il y avait la nécessité d'un lieu, parce qu'on ne fait pas du bordel à un niveau supérieur comme ça, sans le respect du voisinage compte. On peut pas jouer à ça n'importe où, quoi.
Et donc c'est là où le cas particulier du blockhaus est assez rigolo. Parce que le blockhaus, il contient son son.
On avait repéré le blockhaus depuis assez longtemps et je voulais que soit créé un lieu qui soit lié à une recherche, vraiment une recherche vraiment à la fois personnelle, collective, mais qui est vraiment une rigueur. On était tout un petit groupe et on était tous de l'école d'architecture.
Ils ont réussi à choper les clés à la mairie, je crois, ou un truc comme ça. Je sais. Alors, ça, c'est assez mystérieux pour moi.
Et donc, voilà, donc les gars de Bloc, hein, donc Stéphane Lagré, Pascal Riffaut, Olivier Nariot, Mathieu Lebotte, Benoît Fillon, et ensuite rejoint par Freddy Bernard, se sont mis comme des fous furieux à nettoyer tout le blockhaus, quoi. Mais un travail de titan. Et donc, leur objectif, c'était d'en faire un lieu d'expérimentation et d'exposition. Et donc, ils l'ont fait.
C'est un lieu qu'on voit assez peu, on le remarque assez peu. On le remarque, mais en même temps, il n'impressionne pas tant que ça. Les gens peuvent passer devant sans vraiment trop le repérer. Et il nous intéressait, parce qu'il était ce lieu obscur, et il correspondait, parce que nous, on venait du monde de l'archi, il correspondait pas du tout à l'idée qu'on peut se faire de l'habitat quotidien. On sentait bien, en passant devant, que ça pourrait être le lieu d'une expérimentation radicale, puisque le lieu en lui-même était radical. Le squat, il renvoie aussi à l'idée qu'on s'approprie, c'est-à-dire que l'architecture a commencé là. C'est-à-dire que la grotte existe, Si on y met un feu, on se met autour du feu, on fait un cercle. Les cercles, ça a été les premiers, ça a été les tipis aussi. C'est-à-dire, si on fait une hutte, on fait un tipi. Mais le tipi, quelque part, on le trouve déjà dans la communauté qui est autour du feu et qui fait naturellement un cercle.
Eux, ils étaient dans le noir, ils étaient dans le blocos. Et nous, on est allé voir le port autonome qui gérait tout ça en disant, vous avez des locaux vides, voilà, est-ce qu'on peut les utiliser? Et donc, contre eux, on payait un loyer vraiment dérisoire contre l'échange de petits travaux. Donc on s'est retrouvé, on est passé du centre-ville à un autre local. Voilà, 300 mètres carrés sur deux niveaux avec une terrasse de 1000 mètres carrés sur la Loire. Là, on est en 93-94. Et donc on commence à avoir une première pratique professionnelle finalement quand on était en haut, là, dans nos bureaux, et en bas. Donc on avait cette salle d'exposition de 150 mètres carrés où on a continué à faire des expositions, à faire venir des archis en conférence et à faire des fêtes.
C'est surtout la fête qui nous rassemblait, parce que la musique et la fête, c'était un peu lié. Et puis, tous ces mouvements un peu post-punk, mais plutôt liés aussi au démarrage des rave parties. C'est-à-dire la musique électro commençait à apparaître. Donc, en fait, on a vécu, moi personnellement, ce que je vis, c'est la transition entre une culture qui est d'esprit rock et une culture qui est d'esprit plutôt électro, c'est-à-dire qui peut se faire en chambre, mais qui se partage aussi dans la fête. Il y a beaucoup de l'esthétique de ce moment-là, la culture de la fête, des premiers gros sons, et puis de l'idée de la déco, c'est une fête où on fait de l'art sans avoir de l'exigence artistique.
Du coup, je sais pas, ça regroupait, je sais pas, peut-être 150 personnes max, quoi, tu vois. Et on avait squatté la rampe de lancement. Et donc, c'était une espèce d'endroit, en fait, squatté, avec des graffes partout, les vitres pétées, enfin, tu vois, c'était dégueulasse. Et je sais pas comment on avait... Ah, si, on avait un générateur électrique, c'est comme ça qu'on a réussi à mettre du son là-dedans. Ouais, putain, c'est dingue. Et donc, on avait fait ça, on avait fait la teuf, mais toute la nuit, vraiment toute la nuit, quoi. Et personne ne s'est fait emmerder, juste les flics qui sont arrivés, en fait, le matin, mais même plus que le matin, ça devait être 2h de l'après-midi, quelque chose comme ça, ils sont arrivés, ils ont fait « Qu'est-ce que vous faites ?»
Très rapidement, ça a senti le tabac et la bière du lendemain sur le sol. Voilà. Et dans tous nos espaces d'exposition, c'était la même odeur. Ça sentait la clope et la bière du lendemain sur le sol. Mais c'était pas forcément très grave. Hein. Enfin, dans le bloco, ça restait. Nous, on pouvait ouvrir les fenêtres à Oxymore. Et ensuite, dans les odeurs. Donc il y a les odeurs de sport, puisque donc ce badminton, il a commencé quand on était au hangar 22. Donc nous, on était dans notre hangar 22, mais en fait, quand tu passais sur la terrasse, on pouvait faire du vélo sur la terrasse, on faisait du bicross sur la terrasse. Et tu pouvais accéder un peu illégalement à la fabrique à glace. Et donc tu rentrais dans les grands frigos de la fabrique à glace, qui faisait à peu près la taille d'un terrain de badminton aussi. Le principal travail quand tu es architecte, c'est de résoudre des problèmes. Et donc, quand on résolvait un gros problème, on disait « Ah, on a résolu un gros problème, donc on fait un match de badminton. »
C'était comme du concept aussi, tu vois, c'était genre « On fait du golf dans des friches, nous. »
Donc, ça sentait un peu la transpiration aussi. Voilà pour les odeurs.
Et autrement, c'était un énorme terrain vague. Énorme terrain vague avec les herbes hautes.
Tu vois, par exemple, on était à côté de Béguinçay. Béguinçay, c'est l'usine qui fabrique, recycle le sucre. Il y a le pont des trois continents qui avait été fait, qui empêchait les cargos qui ramenaient le sucre d'aller à quai directement à côté de l'usine. Donc, les cargos arrivaient au niveau de la grue grise, Et donc, c'était des camions qui prenaient le sucre et qui l'amenaient jusqu'à l'usine. Et voilà, il y avait des cahots, ils étaient un peu surchargés. Donc, il y a du sucre qui tombait. Et donc, ça sentait, toute cette partie sentait le sucre.
Les machines, c'était la trocante. Une trocante géante, un truc de dingo. C'est là où ils ont mis l'éléphant, là. Donc t'imagines la taille que ça avait, le truc. Enfin, t'avais, mais genre, je sais pas combien de trucs là-dedans. Et disques à foison. Du coup, en fait, on s'équipait pas mal en disques pourris là-bas. On les mixait n'importe comment.
Et ils faisaient de la noise. Et vraiment une noise qui était qui manquait beaucoup de structure parce que y avait pas de rythme, ils utilisaient pas de boîte à rythme. Ils faisaient vraiment que du son, ils sculptaient du son à la guitare. Et puis j'ai regardé ça et puis ça m'a amusé. Je me suis dit, tiens, je pourrais participer à ça. Donc plutôt que de répéter, on s'entraînait. Donc on s'entraînait à faire des concerts sans avoir de morceaux. Et ce groupe a duré plusieurs années, parce qu'il a dû durer 25 ans, et il a dû faire
1, 2, 3, 4,
même pas une dizaine de concerts.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 7, 30.
Parce qu'on avait créé un truc qui s'appelle les 730, où on voulait que ce soit assez court pour que ça soit réellement expérimental, et puis c'était l'occasion de boire un coup aussi. Pour pas cher, c'est-à-dire qu'on payait une entrée qui était à peine le prix de la canette, et c'était assez bien.
Et donc voilà, on était en parallèle en fait, Oxymore et Blokhaus. Donc nous plutôt à faire venir des gens de l'extérieur et eux à faire des expérimentations à partir de leurs propres pratiques. Voilà, mais on était une espèce de même bande de copains, quoi.
C'est-à-dire qu'on est dans une situation, c'est la fin des chantiers, on rentre dans le tertiaire, il n'y a plus que des bureaux, et jusqu'au milieu des années 80 où tout est fini, où il y a la friche.
C'était comme je dis, hein, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de. Il y avait beaucoup de gens, de clients venaient à pied. C'était pas terrible. Il y avait que le centre-ville de Nantes qui était bien. Nous, on avait la chance, donc, à côté de la place de la République, d'être encore pas très loin du centre-ville. Donc, les gens avaient, pour ceux qui venaient à pied, hein, ils avaient juste à traverser le pont. Et ils étaient aux Florides, mais.
Quand tu es en terrain désolé,
C'est pas rigolo, quoi.
bah, il peut soit ça pousse, soit ça pousse pas.
Parce que il y avait cette envie de, on veut sortir de cette morosité, quoi.
Quand je te disais des moments noirs, que ces moments noirs aient fabriqué des choses, parlait de la mélancolie ou des choses comme ça, c'est que il porte sa propre critique. C'est-à-dire que c'est un état. C'est aussi un état qui, soit il reste, et là ton destin est noir, il le reste, soit tu le dépasses et faut nier la négation, c'est ça la création.
Et le punk, l'explosion punk a donné plein de mouvements.
Le punk est un projet, c'est un peu le do it yourself, c'est tu fais ça toi-même. C'est-à-dire, tu t'habilles toi-même, tu fais ta coupe de cheveux toi-même, enfin, tu fais tout toi-même. Non, c'est pas forcément du plus grand style, mais au moins, c'est toi qui l'as fait.
Les vrais punks, ce sont ceux qui ont voulu sortir de cette morosité générale et on va créer, on va faire de la mode, on va mettre des couleurs, on va vouloir faire de autre chose. Moi, je le vois plus comme ça, hein.
On peut faire un bakouninisme culturel. On commence d'abord par tout démonter. Et si tu veux créer, il faut commencer par démonter. Et c'est pour ça que...
Merde, on va pas se laisser submerger par ce truc. Ça nous dit rien. En plus, à l'époque, c'était comment c'était Valéry Giscard d'Estaing. Donc c'était très une France. Donc les jeunes en avaient marre. Ils voulaient autre chose, quoi. Ils voulaient. Enfin bon.
Le fait de dépasser cet état de déprime, ça pouvait forcément être que créateur. Il faut que tu crées une situation nouvelle.
La révolution punk, c'est ça, quoi. C'est-à-dire, on en avait marre de ce truc-là, quoi. Des trucs où c'est...
C'est le côté positif de l'esprit punk. C'est le magazine que tu vas faire toi-même avec tes moyens. Donc, c'est le collage, c'est le dessin. C'est une sorte d'esthétique qui est à la fois anarchisante, mais en même temps qui tend vers une certaine exigence esthétique, mais tu fais ça avec tes moyens, quoi. Les moyens du bord. Certes, t'as pas d'imprimerie, vive la photocopieuse. Alors maintenant, il y a plein d'outils, mais c'est bien léché, c'est bien dans le moule, mais ça me fait chier, quoi. Ça me fait chier parce que y a pas ce moment négatif que je trouve crucial et qui est lié à mon esthétique. Il faut casser un truc, il faut provoquer. Il y a un moment comme ça où ça doit péter avant de créer quelque chose, quoi.
Ça partait dans tous les sens, quoi. C'était extraordinaire. Pour parler donc du Floride, on est arrivé. C'était l'explosion punk rock, new wave, gothique, cure, machin. Enfin, et au niveau mode, il y avait des gens de tous les niveaux. Enfin, il y avait des new wave, des mods, des punks, des hardeux, des gothiques. Enfin bon, et il y avait un mélange. On a eu des bastons, oui, mais très peu. Parce que beaucoup de gens se s'accaparaient le Floride comme leur famille, un peu leur maison. Et c'est vrai, beaucoup, des fois, dans l'ancien Floride, par exemple, j'avais pas de videur. On avait barman, barmaid aussi, j'ai eu. On n'avait pas de videur. On a malgré tout eu la chance d'être à l'écart du centre-ville. Donc il y avait un côté un peu à part. Je vous dis, à l'époque, quartier République, c'était pas bien réputé, quoi. Hein. Il y avait une mauvaise réputation, donc de bar à filles, pas de voyous, mais de trucs glauques, quoi. Voilà, c'était un peu glauque. Mais nous, le Floride, ça allait bien avec le style, justement. Comme le rock est un peu à part, enfin.
Mais c'est vrai qu'il y a quand même une forme d'identité de l'époque. Mais on allait dans un bar, donc c'est un lieu qui a mal fini, et puis c'est un lieu où le propriétaire écoutait les Doors. Il était fan des Doors, il y avait des télés, il passait les Doors en permanence. J'aime bien les Doors, mais enfin, j'avais pas non plus le cultiver, je pensais à autre chose. Ça participait à un peu de la friche. C'est-à-dire qu'on était dans un bar qui nous parlait d'un truc, mais c'était fini, quoi. Mais le mec, il était à fond les ballons. C'était un peu l'identité sonore du bar au début. J'aimais bien ce bar aussi pour ça, parce qu'il parlait d'un truc. Quand tu es dans une situation pareille, ça devient urgent de faire autre chose, quand même. Ça devient urgent de parler d'autre chose que de la fin des années 70, quoi. Enfin, bref, c'était drôle. C'est pour te dire que c'était aussi la culture rock qui est arrivée à la fin, parce que nous, on était encore dans cette énergie-là, malgré tout. Mais on arrivait au bout. C'était une énergie destructrice aussi, parce qu'à force de tout démolir ou faire du bruit. Mais c'est vrai que moi, j'aimais la musique qui m'énervait et qui me déprimait. Il y avait une certaine jouissance à déprimer. Ça a signé une époque où j'ai vécu.
Alors, je suis arrivé à Nantes en 2007. On est arrivé avec quatre camions. Il y avait toute ma vie qui était dans les quatre camions. Il y avait tout mon matériel, tous mes outils, mes guitares, mes affaires personnelles. On a tout posé dans les halles Alstom. J'avais loué un local là-bas. Donc voilà, j'étais dans cette halle. J'avais loué un espace qui faisait 85 mètres carrés. Donc vraiment pas cher, mais il n'y avait ni toit ni façade. Donc à partir de là, j'ai tout posé dans un coin. J'ai fait vite fait une façade. Placo, enfin vaguement isolé. J'ai cloisonné et j'ai commencé à faire mon atelier de lutherie là-dedans. Et si j'avais voulu, je pouvais louer toute la halle Alstom. Si j'avais voulu monter une usine de guitare pour vraiment pas cher au mètre carré. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que il y avait tout qui se créait. Il y avait, on était vraiment à une page qui se tournait en fait. Il y avait l'ancienne île de Nantes très industrielle. Et il y avait toute cette émulation autour des arts et de la culture. Et à Nantes, j'ai senti vraiment cette période en 01. Donc ça, c'était... voilà, on était donc en 2007, mi-2007. Mais j'étais venu une première fois début 2007, pendant les vacances 2006-2007, pendant les vacances de Noël. Et là, j'ai connu un des premiers endroits où j'ai mis les pieds à Nantes, c'était Place de la République. Non, Place François II. Et je suis rentré dans un troquet et la mamie, elle était en pantoufles. Et j'ai bu mon café ici et j'ai trouvé ça génial, quoi. C'était vraiment le. Ça n'a pas duré. Entre la rue de la Tour d'Auvergne et les nefs, il y avait encore une passerelle suspendue entre l'immeuble Insula et la Halle 6. Et quand je suis revenu 6 mois après, bah, ça avait disparu. La Halle 6 commençait à s'ouvrir sur plein d'activités, dont la mienne, et dont il y avait plein de gens. Il y avait la Télé Nantes, enfin, il y avait tout un microcosme qui avait peuplé la Halle 6. Et donc, j'étais là-dedans, en plein milieu. C'était juste le kiff total, quoi. Genre, on est là pour créer un nouveau lieu, une nouvelle vie, une nouvelle ville. Et je suis resté de 2007 à 2013 dans la Halle 6. Et petit à petit, tous les gens de la Halle 6 s'en allaient. Et moi, je me suis un moment, pendant, ça a duré un an ou deux, je me suis retrouvé tout seul dans la Halle 6 quasiment, au fond de la Halle 6. Donc j'entendais la porte qui claquait, parce que c'est un truc, ça résonnait énormément. Je ne sais pas pourquoi, ça faisait un son de cathédrale. Donc la porte d'entrée qui claquait à 50 mètres, et j'entendais clac, 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 clac. Et je dis, ah, ça, c'est un client. Et puis, toc, 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 à la porte. Et puis, voilà, c'était effectivement un client. Enfin, et pendant 3 ans, j'avais le ululement lugubre des pigeons toute la journée. La porte qui claquait, clac, 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 un client. Je me disais, mais je vais tout perdre dans cette histoire. Et je voulais pas lâcher. Je voulais pas quitter ce lieu en disant, je vais me prendre un autre lieu. Parce que j'avais celui-ci qui est pour moi le lieu idéal, le lieu de rêve. Qui était suspendu à un fil que j'avais devant le nez, comme ça. Et fallait que je patiente, fallait que je patiente. Et donc là, ça m'a vraiment. Mais là, ça a été mon stoïcisme a été mis à rude épreuve, quoi, on va dire. Et puis un jour, on m'a appelé en disant, c'est bon, on a les clés. Voilà. Je ne vais pas dire j'ai cru parce que, enfin, j'y croyais et je ne vais pas dire je me suis fait leurrer, en fait. Mais ça, évidemment, ça a vite. C'est devenu vite une routine, en fait. Tout était calibré d'avant. C'est pas nous qui créions ça. C'était calibré. Nous, on était des éléments qui allions faire vivre tout ça. Mais c'est pas nous qui dirigeons quoi que ce soit. On était dans un bateau et on suivait le courant malgré tout.
ça, tu sais pas si c'est, si c'est plus fort que toi, si c'est à l'échelle de la ville ou si c'est à l'échelle de ton groupe, tu sais pas trop.